Comte de Lautréamont, Les Chants de Maldoror, chant cinquième. Que le lecteur ne se fâche pas contre moi si ma phrase prose n'a pas le bonheur de lui plaire. Tu soutiens que mes idées sont au moins singulières. Ce que tu dis là, homme respectable, est la vérité, mais une vérité partiale. Or, quelle source abondante d'erreurs et de méprises n'est pas toute vérité partiale? Les bandes des tourneaux ont une manière de voler qui leur est propre et semble soumise à une tactique uniforme et régulière, telle que serait celle d'une troupe disciplinée obéissant avec précision à la voix d'un seul chef. Mais c'est à la voix de l'instinct que les étourneaux obéissent, et leur instinct les porte à se rapprocher toujours du centre du peloton, tandis que la rapidité de leur vol les emporte sans cesse au-delà. En sorte que cette multitude d'oiseaux, ainsi réunis par une tendance commune vers le même point aimanté, allant et venant sans cesse, circulant et se croisant en tous sens, forme une espèce de tourbillon fort agité, dont la masse entière, sans suivre de direction bien certaine, paraît avoir un mouvement général d'évolution sur elle-même, résultant des mouvements particuliers de circulation propres à chacune de ses parties, et dans lequel le centre, tendant perpétuellement à se développer, mais sans cesse pressé, repoussé par l'effort contraire des lignes environnantes qui pèsent sur lui, est constamment plus serré qu'aucune de ses lignes, lesquelles le sont elles-mêmes d'autant plus qu'elles sont plus voisines du centre. Malgré cette singulière manière de tourbillonner, les étourneaux n'enfantent pas moins avec une vitesse rare l'air ambiant et gagnent sensiblement à chaque seconde un terrain précieux pour le terme de leur fatigue et le but de leur pèlerinage. Alors toi, de même, ne fais pas attention à la manière bizarre dont je chante chacune de ces strophes, mais sois persuadé que les accents fondamentaux de la poésie n'en conservent pas moins leur intrinsèque droit sur mon intelligence. Ne généralisons pas des faits exceptionnels, je ne demande pas mieux. Cependant, mon caractère est dans l'ordre des choses possibles. Sans doute entre les deux termes extrêmes de la littérature, tels que tu l'entends, et de la mienne, il en est une infinité d'intermédiaires, et il serait facile de multiplier les divisions. Mais il n'y aurait nulle utilité, et il y aurait le danger de donner quelque chose d'étroit et de faux à une conception éminemment philosophique qui cesse d'être rationnelle dès qu'elle n'est plus comprise comme elle a été imaginée, c'est-à-dire avec ampleur. Tu sais allier l'enthousiasme et le froid intérieur, observateur d'une humeur concentrée. Enfin, pour moi, je te trouve parfait. Et tu ne veux pas me comprendre. Mais si tu n'es pas en bonne santé, suis mon conseil. Oh, c'est le meilleur que je possède à ta disposition. Et va faire une promenade dans la campagne. Triste compensation, qu'en dis-tu? Mais lorsque tu auras pris l'air, reviens me trouver. Tes sens seront plus reposés. Ne pleure plus, je ne voulais pas te faire de la peine. N'est-il pas vrai, mon ami, que jusqu'à un certain point, ta sympathie est acquise à mes chants? Ce qui t'empêche d'y franchir les autres degrés. La frontière entre ton goût et le mien est invisible. Tu ne pourras jamais la saisir, preuve que cette frontière elle-même n'existe pas. Réfléchis donc qu'alors, je ne fais ici qu'effleurer la question, il ne serait pas impossible que tu eusses signé un traité d'alliance avec l'obstination, cette agréable fille du mulet, source et riche d'intolérance. Si je ne savais pas que tu n'étais pas un sot, je ne te ferai pas un semblable reproche. Il n'est pas utile pour toi que tu t'encroutes dans la cartilagineuse carapace d'un axiome que tu crois inébranlable. Il y a d'autres axiomes aussi qui sont inébranlables, et qui marche parallèlement avec le tien. Si tu as un penchant marqué pour le caramel, admirable face de la nature, personne ne le concevra comme un crime. Mais ceux dont l'intelligence plus énergique est capable de plus grandes choses préfèrent le poivre et l'arsenic ont de bonnes raisons pour agir de la sorte sans avoir l'intention d'imposer leur pacifique domination à ceux qui tremblent de peur devant une musaraigne ou l'expression parlante des surfaces d'un cube. Je parle par expérience, sans venir jouer ici le rôle de provocateur. Et de même que les rotifères et les tardigrades peuvent être chauffés à une température voisine de l'ébullition, sans perdre nécessairement leur vitalité, il en sera de même pour toi, si tu sais assimiler avec précaution l'âcre sérosité suppurative qui se dégage avec lenteur de l'agacement que causent mes intéressantes élucubrations. Et quoi, n'est-on pas parvenu à greffer sur le dos d'un rat vivant la queue détachée du corps d'un autre rat? Essaye donc pareillement de transporter dans ton imagination les diverses modifications de ma raison cadavérique. Mais sois prudent. À l'heure que j'écris, de nouveaux frissons parcourent l'atmosphère intellectuelle. Il ne s'agit que d'avoir le courage de les regarder en face. Mais pourquoi fais-tu cette grimace? Et même, tu l'as accompagnée d'un geste que l'on ne pourrait imiter qu'après un long apprentissage. Sois persuadé que l'habitude est nécessaire en tout. Et puisque la répulsion instinctive qui s'était déclarée dès les premières pages a notablement diminué de profondeur en raison inverse de l'application à la lecture, comme un furoncle qu'on incise, il faut espérer, quoique ta tête soit encore malade, que ta guérison ne tardera certainement pas à rentrer dans sa dernière période. Pour moi, il est indubitable que tu vogues déjà en pleine convalescence. Cependant, ta figure est restée bien maigre, hélas, mais courage, il y a en toi un esprit peu commun. Je t'aime et je ne désespère pas de ta complète délivrance, pourvu que tu absorbes quelques substances médicamenteuses, qui ne feront que hâter la disparition des derniers symptômes du mal. Comme nourriture astringente et tonique, tu arracheras d'abord les bras de ta mère, si elle existe encore, tu les dépeceras en petits morceaux et tu les mangeras ensuite, en un seul jour, sans qu'aucun trait de ta figure ne trahisse ton émotion. Oh, si ta mère était trop vieille, choisis un autre sujet chirurgique, plus jeune et plus frais, sur lequel ta rugine aura prise et dont les os tarsiens, quand ils marchent, prennent aisément un point d'appui pour faire la bascule. Ta sœur, par exemple. Je ne puis m'empêcher de plaindre son sort et je ne suis pas de ceux dans lesquels un enthousiasme très froid ne fait qu'affecter la bonté. Toi et moi, nous verserons pour elle, pour cette vierge aimée, mais je n'ai pas de preuve pour établir qu'elle soit vierge, deux larmes incoercibles, deux larmes de plomb. Ce sera tout. La potion la plus lénitive que je te conseille est un bassin plein d'un pus hémorragique à noyau dans lequel on aura préalablement dissous un kyste pileux de l'ovaire, un chancre folliculaire, un prépuce enflammé, renversé en arrière du gland par une malnephrinosis et trois limaces rouges. Si tu suis mes ordonnances, ma poésie te recevra à bras ouverts, comme quand un pou ressèque avec des baisers la racine d'un cheveu. Je voyais devant moi un objet debout sur un tertre. Je ne distinguais pas clairement sa tête, mais déjà je devinais qu'elle n'était pas d'une forme ordinaire, sans néanmoins préciser la proportion exacte de ses contours. Je n'osais m'approcher de cette colonne immobile Et quand même, j'aurais eu à ma disposition les pattes ambulatoires de plus de 3000 crabes, je ne parle pas même de celles qui servent à l'appréhension et à la mastication des aliments, je serais encore resté à la même place si à l'événement, très futile par lui-même, n'eût prélevé un lourd tribut sur ma curiosité qui faisait craquer ses digues. Un scarabée roulant sur le sol, avec ses mandibules et ses antennes, une boule dont les principaux éléments étaient composés de matière excrémentielle, s'avançait d'un pas rapide vers le tertre désigné, s'appliquant à mettre bien en évidence la volonté qu'il avait de prendre cette direction. Cet animal articulé n'était pas de beaucoup plus grand qu'une vache. Si l'on doute de ce que je dis, que l'on vienne à moi et je satisferai les plus incrédules par le témoignage de bons témoins. Je le suivis de loin, ostensiblement intrigué. Que voulait-il faire de cette grosse boule noire? Ô lecteur, toi qui te vantes sans cesse de ta perspicacité, et non à tort, serais-tu capable de me le dire? Mais je ne veux pas soumettre à une rude épreuve ta passion connue pour les énigmes. Qu'il te suffise de savoir que la plus douce punition que je puisse t'infliger est encore de te faire observer que ce mystère ne te sera révélé, oui, il te sera révélé, que plus tard, à la fin de ta vie, quand tu entameras des discussions philosophiques avec l'agonie sur le bord de ton chevet, et peut-être même à la fin de cette strophe. Le scarabée était arrivé au bas du tertre. J'avais emboîté mon pas sur ses traces, et j'étais encore à une grande distance du lieu de la scène, car, de même que les stercoraires, oiseaux inquiets, comme s'ils étaient toujours affamés, se plaisent dans les mers qui baignent les deux pôles, et n'avancent qu'accidentellement dans les zones tempérées, ainsi je n'étais pas tranquille, et je portais mes jambes en avant avec beaucoup de lenteur. Mais qu'était-ce donc que la substance corporelle vers laquelle j'avançais? Je savais que la famille des pélécaminés comprend quatre genres distincts, le fou, le pélican, le cormoran, la frégate. Et la forme grisâtre qui m'apparaissait n'était pas un fou. Le bloc plastique que j'apercevais n'était pas une frégate. La chair cristallisée que j'observais n'était pas un cormoran. Je le voyais maintenant, l'homme à l'encéphale dépourvu de protubérances annulaires. Je recherchais vaguement dans les replis de ma mémoire dans quelle contrée torride ou glacée j'avais déjà remarqué ce bec très long, large, convexe, sans voûte, à arêtes marquées, orgiculé, renflé et très crochu à son extrémité, ses bords dentelés droits, cette mandibule inférieure à branches séparées jusqu'auprès de la pointe, cet intervalle rempli par une peau membraneuse, cette large poche jaune et saxiforme occupant toute la gorge et pouvant se distendre considérablement, et ses narines très étroites, longitudinales, presque imperceptibles, creusées dans un sillon basal. Si cet être vivant, à respiration pulmonaire et simple, à corps garni de poils, avait été un oiseau entier jusqu'à la plante des pieds, et non plus seulement jusqu'aux épaules, il ne m'aurait pas avoir été si difficile de le reconnaître. Chose très facile à faire, comme vous allez le voir vous-même. Seulement, cette fois, je m'en dispense pour la clarté de ma démonstration, j'aurais besoin qu'un de ces oiseaux fût placé sur ma table de travail, quand même il ne serait qu'empaillé. Or, je ne suis pas assez riche pour m'en procurer. Suivant pas à pas une hypothèse antérieure, j'aurais de suite assigné sa véritable nature et trouvait une place dans les cadres d'histoire naturelle à celui dont j'admirais la noblesse dans sa pose maladive. Avec quelle satisfaction de n'être pas tout à fait ignorant sur les secrets de son double organisme, et quelle avidité d'en savoir davantage, je le contemplais dans sa métamorphose durable. Quoiqu'il ne possédât pas un visage humain, il me paraissait beau comme les deux longs filaments tentaculiformes d'un insecte, ou plutôt comme une inhumation précipitée, ou encore comme la loi de la reconstitution des organes mutilés, et surtout comme un liquide éminemment putrescible. Mais ne prêtant aucune attention à ce qui se passait aux alentours, l'étranger regardait toujours devant lui avec sa tête de pélican. Un autre jour, je reprendrai la fin de cette histoire. Cependant, je continuerai ma narration avec un morne empressement, car si de votre côté il vous tarde de savoir où mon imagination veut en venir, plus au ciel qu'en effet ce ne fut là que de l'imagination, du mien j'ai pris la résolution de terminer en une seule fois, et non en deux, ce que j'avais à vous dire. Quoique cependant personne n'ait le droit de m'accuser de manquer de courage, mais quand on se trouve en présence de pareilles circonstances, plus d'un sent battre contre la paume de sa main les pulsations de son cœur. Il vient de mourir, presque inconnu, dans un petit port de Bretagne, un maître caboteur, vieux marin qui fut le héros d'une terrible histoire. Il était alors capitaine au long cours et voyageait pour un armateur de Saint-Malo. Or, après une absence de 13 mois, il arriva au foyer conjugal au moment où sa femme, encore alitée, venait de lui donner un héritier, à la reconnaissance duquel il ne se reconnaissait aucun droit. Le capitaine ne fit rien paraître de sa surprise et de sa colère. Il pria froidement sa femme de s'habiller et de l'accompagner à une promenade sur les remparts de la ville. On était en janvier. Les remparts de Saint-Malo sont élevés lorsque le souffle vent du nord les plus intrépides recule. La malheureuse obéit, calme et résignée, et en entrant, elle délira. Elle expira dans la nuit. Mais ce n'était qu'une femme. Tandis que moi, qui suis un homme, en présence d'un drame non moins grand, je ne sais si je conservais assez d'empire sur moi-même pour que les muscles de ma figure restassent immobiles. Dès que le scarabée fut arrivé au bas du tertre, l'homme leva son bras vers l'ouest, précisément dans cette direction un vautour des agneaux et un grand-duc de Virginie avaient engagé un combat dans les airs, essuya sur son bec une longue larme qui présentait un système de coloration diamantée, et dit au scarabée « Malheureuse boule, n'as-tu pas fait rouler assez longtemps? Ta vengeance n'est pas encore assouvie, et déjà, cette femme dont tu avais attaché avec des colliers de perles les jambes et les bras, de manière à réaliser un polyèdre amorphe, afin de la traîner avec les tasses à travers les vallées et les chemins, sur les ronces et les pierres. Laisse-moi m'approcher pour voir si c'était encore elle. A vu ses os se creuser de blessures, ses membres se polir par la loi mécanique du frottement rotatoire, se confondre dans l'unité de la coagulation, et son corps présenté, au lieu des linéaments primordiaux et des courbes naturelles, l'apparence monotone d'un seul tout homogène qui ne ressemble que trop par la confusion de ces divers éléments broyés à la masse d'une sphère. Il y a longtemps qu'elle est morte. Laisse ses dépouilles à la terre et prends garde d'augmenter dans d'irréparables proportions la rage qui te consume. Ce n'est plus de la justice, car l'égoïsme caché dans les téguments de ton front soulève lentement comme un fantôme la draperie qui le recouvre. Le vautour des agneaux et le grand-duc de Virginie, portés insensiblement par les péripéties de leur lutte, s'étaient rapprochés de nous. Le scarabée trembla devant ces paroles inattendues, et ce qui, dans une autre occasion, aurait été un mouvement insignifiant, devint cette fois la marque distinctive d'une fureur qui ne connaissait plus de bornes, car il frotta redoutablement ses cuisses postérieures contre le bord des élytres en faisant entendre un bruit aigu. « Mais qui es-tu donc, toi, être pusillanime ? » Il paraît que tu as oublié certains développements étranges de ton passé. Tu ne les retiens pas dans ta mémoire, mon frère. Ces deux femmes nous ont trahis l'un après l'autre. Toi le premier, moi le second. Il me semble que cette injure ne doit pas disparaître du souvenir si facilement. Si facilement. Mais toi, la nature magnanime te permet de pardonner. Mais sais-tu si, malgré la situation anormale des atomes de cette femme, réduite à pâte de pétrin, il n'est pas maintenant en question de savoir si l'on ne croirait pas à la première investigation que ce corps ait été augmenté d'une quantité notable de densité, plutôt par l'engrenage des deux fortes roues que par les effets de ma passion fougueuse. Elle n'existe pas encore. Tais-toi et permets que je me venge. » Alors il reprit son manège et s'éloigna, la boule poussée devant lui. Quand il se fut éloigné, le pélican s'écria « Cette femme, par son pouvoir magique, m'a donné une tête de palmipède et a changé mon frère en scarabée. Peut-être qu'elle mérite même de pires traitements que ceux que je viens d'énumérer. Et moi, qui n'étais pas certain de ne pas rêver, devinant, parce que j'avais entendu, la nature des relations hostiles qui unissaient au-dessus de moi, dans un combat sanglant, le vautour des agneaux et le grand-duc de Virginie, je rejetais comme un capuchon sur ma tête en arrière, afin de donner au jeu de mes poumons l'aisance et l'élasticité susceptibles, et je leur criais en dirigeant mes yeux vers le haut. « Vous autres, cessez votre discorde. Vous avez raison tous les deux, car à chacun elle avait promis son amour, par conséquent elle vous a trompés ensemble. Mais vous n'êtes pas les seuls. En outre, elle vous dépouilla de votre forme humaine, se faisant un jeu cruel de vos plus saintes douleurs, et vous n'hésiteriez pas à me croire. D'ailleurs, elle est morte, et le scarabée lui a fait subir un châtiment d'ineffable empreinte, malgré la pitié du premier trahi. » À ces mots, ils mirent fin à leur querelle, et ne s'arrachèrent plus les plumes ni les lambeaux de chair. Ils avaient raison d'agir ainsi. Le grand-duc de Virginie, beau comme un mémoire sur la courbe que décrit un chien en courant après son maître, s'enfonça dans les crevasses d'un couvent en ruine. Le vautour des agneaux, beau comme la loi de l'arrêt de développement de la poitrine chez les adultes dont la propension et la croissance n'est pas en rapport avec la quantité de molécules que leur organisme s'assimile, se perdit dans les hautes couches de l'atmosphère. Le pélican, dont le généreux pardon m'avait causé beaucoup d'impressions, parce que je ne le trouvais pas naturel, reprenant sur son tertre l'impressibilité majestueuse d'un phare, comme pour avertir les navigateurs humains de faire attention à son exemple et de préserver leur sort de l'amour des magiciennes sombres, regardait toujours devant lui. Le scarabée, beau comme le tremblement des mains dans l'alcoolisme, disparaissait à l'horizon. Quatre existences de plus que l'on pouvait rayer du livre de vie. Je m'arrachais un muscle entier dans le bras gauche, car je ne savais plus ce que je faisais, tant je me trouvais ému devant cette quadruple infortune. Et moi, qui croyais que c'était des matières excrémentielles, grande bête que je suis, va. L'anéantissement intermittent des facultés humaines, quoique votre pensée penchât à supposer, ce ne sont pas là des mots. Du moins, ce ne sont pas des mots comme les autres. Qui lève la main, celui qui croirait accomplir un acte juste en priant quelques bourreaux de l'écorcher vivant? Qui le redresse la tête avec la volupté du sourire, celui qui volontairement offrirait sa poitrine aux balles de la mort? Mes yeux chercheront la marque des cicatrices. Mes 10 doigts concentreront la totalité de leur attention à palper soigneusement la chair de cet excentrique. Je vérifierai que les éclaboussures de la cervelle ont rejailli sur le satin de mon front. N'est-ce pas qu'un homme amant d'un pareil martyr se trouverait pas dans l'univers entier? Oh, je ne connais pas ce que c'est que le rire, c'est vrai, ne l'ayant jamais éprouvé par moi-même. Cependant, quelque imprudence, n'y aurait-il pas à soutenir que mes lèvres ne s'élargiraient pas s'il m'était donné de voir celui qui prétendrait que quelque part cet homme-là existe? Ce qu'aucun ne souhaiterait pour sa propre existence m'a été échu par une loi inégale. Ce n'est pas que mon corps nage dans le lac de la douleur. Passe alors, mais l'esprit se dessèche par une réflexion condensée et continuellement tendue. Il hurle comme les grenouilles d'un marécage quand une troupe de flamants voraces et d'hérons affamés vient s'abattre sur les joncs de ses bords. Heureux celui qui dort paisiblement dans un lit de plumes arraché à la poitrine de l'Eider, sans remarquer qu'il se trahit lui-même. Voilà plus de 30 ans que je n'ai pas encore dormi. Depuis l'imprononçable jour de ma naissance, j'ai voué aux planches somnifères une haine irréconciliable. C'est moi qui l'ai voulu, que nul ne soit accusé. Vite que l'on se dépouille du soupçon avorté. Distinguez-vous sur mon front cette pâle couronne? Celle qui la tressa de ses doigts maigres fut la ténacité. Tant qu'un reste de sève brûlante coulera dans mes veines, comme un torrent de métal fondu, je ne dormirai point. Chaque nuit, je force mon œil livide à fixer les étoiles à travers les carreaux de ma fenêtre. Pour être plus sûr de moi-même, un éclat de bois sépare mes paupières gonflées. Lorsque l'aurore apparaît, elle me retrouve dans la même position, le corps appuyé verticalement et debout contre le plâtre de la muraille froide. Cependant, il m'arrive quelquefois de rêver, mais sans perdre un seul instant le vivace sentiment de ma personnalité et la libre faculté de me mouvoir. Sachez que le cauchemar qui se cache dans les angles phosphoriques de l'ombre, la fièvre qui palpe mon visage avec son moignon, chaque animal impur qui dresse sa griffe sanglante, eh bien, c'est ma volonté qui, pour donner un aliment stable à mon activité perpétuelle, les fait tourner en rond. En effet, atome qui se venge en son extrême faiblesse, le libre arbitre ne craint pas d'affirmer avec une autorité puissante qu'il ne compte pas l'abrutissement parmi le nombre de ses fils. Celui qui dort est moins qu'un animal châtré la veille. Quoique l'insomnie entraîne vers les profondeurs de la fosse ses muscles qui déjà répandent une odeur de cyprès, jamais la blanche catacombe de mon intelligence n'ouvrira ses sanctuaires aux yeux du Créateur. Une secrète et noble justice vers les bras tendus de laquelle je le lance par instinct, m'ordonne de traquer sans trêve cet ignoble châtiment. Ennemi redoutable de mon âme imprudente, à l'heure où l'on allume un falot sur la côte, je défends à mes reins infortunés de se coucher sur la rosée de gazon. Vainqueur, je repousse les embûches de l'hypocrite pavot. Il est en conséquence certain que par cette lutte étrange, mon cœur a muré ses desseins, affamé ce qui se mange lui-même. Impénétrable comme les géants, moi j'ai vécu sans cesse avec l'envergure des yeux béantes. Au moins, il est avéré que pendant le jour, chacun peut opposer une résistance utile contre le grand objet extérieur qui ne sait pas son nom. Car alors la volonté veille à sa propre défense avec un remarquable acharnement. Mais aussitôt que le voile des vapeurs nocturnes s'étend même sur les condamnés que l'on va pendre, oh, voir son intellect entre les sacrilèges mains d'un étranger, un implacable scalpel en scrute les broussailles épaisses, la conscience exhale un long râle de malédiction, car le voile de sa pudeur reçoit de ruelles déchirures. Humiliation. Notre porte est ouverte à la curiosité farouche du céleste bandit. Je n'ai pas mérité ce supplice infâme. Toi, le hideux espion de ma causalité, si j'existe, je ne suis pas un autre. Je n'admets pas en moi cette équivoque pluralité. Je veux résister seul dans mon intime raisonnement. L'autonomie, ou bien qu'on me change en hippopotame. Abîme-toi sous la terre, ô anonyme stigmate, et ne reparais plus devant mon imagination hardgarde. Ma subjectivité et le créateur, c'est trop pour un cerveau. Quand la nuit obscurcit le cours des heures, quel est celui qui n'a pas combattu contre l'influence du sommeil dans sa couche mouillée d'une glaciale sueur? Ce lit, attirant contre son sein les facultés mourantes, n'est qu'un tombeau composé de planches de sapin équarries. La volonté se retire insensiblement, comme en présence d'une force invisible. Une poix visqueuse épaissit le cristallin des yeux, les paupières se recherchent comme deux amis, le corps n'est plus qu'un cadavre qui respire. Enfin, quatre énormes pieux clouent sur le matelas la totalité des membres. Et remarquez, je vous prie, qu'en somme les draps ne sont que des linceuls. Voici la cassolette où brûle l'encens des religions. L'éternité mugit ainsi qu'une mer lointaine et s'approche à grands pas. L'appartement a disparu. Prosternez-vous, humains, dans la chapelle ardente. Quelquefois, s'efforçant inutilement de vaincre les imperfections de l'organisme, au milieu du sommeil le plus lourd, le sens magnétisé s'aperçoit avec étonnement qu'il n'est plus qu'un bloc de sépulture et résonne admirablement, appuyé sur une subtilité incomparable. Sortir de cette couche est un problème plus difficile qu'on ne le pense. Assis sur la charrette, l'on m'entraîne vers la binarité des poteaux de la guillotine. Chose curieuse, mon bras inerte s'est assimilé savamment la raideur de sa souche. C'est très mauvais de rêver qu'on marche à l'échafaud. Le sang coule à travers flot à travers la figure. La poitrine effectue des soubresauts répétés et se gonfle avec des sifflements. Le poids d'un obélisque étouffe l'expansion de la rage. Le réel a détruit les rêves de la somnolence. qui ne sait pas que lorsque la lutte se prolonge entre le moi plein de fierté et l'accroissement terrible de la catalepsie, l'esprit halluciné perd le jugement. Rongé par le désespoir, il se complaît dans son mal, jusqu'à ce qu'il ait vaincu la nature, et que le sommeil, voyant sa proie lui échapper, s'enfuit sans retour loin de son cœur, d'une aile irritée et honteuse. Jetez un peu de cendre sur mon orbite en feu, ne fixez pas mon œil qui ne se ferme jamais. Comprenez-vous les souffrances que j'endure? Cependant, l'orgueil est satisfait. Dès que la nuit exhorte les humains au repos, un homme que je connais marche à grands pas dans la campagne, et je crains que ma résolution ne succombe aux atteintes de la vieillesse. Oh, mais qu'il arrive ce jour fatal où je m'endormirai. Au réveil, mon rasoir, se frayant un passage à travers le cou, prouvera que rien n'était en effet plus réel. Mais qui donc ose ici, comme un conspirateur, traîner les anneaux de son corps vers ma poitrine noire? Qui que tu sois, excentrique Python, par quel prétexte excuses-tu ta présence ridicule? Est-ce un vaste remords qui te tourmente? Car vois-tu, Boa, ta sauvage majesté n'a pas, je le suppose, l'exorbitante prétention de se soustraire à la comparaison que j'en ai fait avec les traits du criminel. Cette bave écumeuse et blanchâtre est pour moi le signe de la rage. Écoute-moi, sais-tu que ton œil est loin de boire un rayon d'ex-céleste? N'oublie pas que si ta présomptueuse cervelle m'a cru capable de t'offrir quelques paroles de consolation, ce ne peut être que par le motif d'une ignorance totalement dépourvue de connaissances physiognomoniques. Pendant un temps, bien entendu, suffisant, dirige la lueur de tes yeux vers ce que j'ai le droit, comme un autre, d'appeler mon visage. Ne vois-tu pas comme je pleure? Tu t'es trompé, Basilic. Il est nécessaire que tu cherches ailleurs la triste ration de soulagement que mon impuissance radicale te retranche malgré les nombreuses protestations de ma bonne volonté. Oh, quelle force en phrases exprimables fatalement t'entraîna vers ta perte. Il est presque impossible que je m'habitue à ce raisonnement, que tu ne comprennes pas que, plaquant sur le gazon rougi d'un coup de mon talon les courbes fuyantes de ta tête triangulaire, je pourrais pétrir un innommable mastic avec l'herbe de ta savane et la chair de l'écrasé. Disparais le plus tôt possible, loin de moi, coupable à la face blême. Le mirage fallacieux de l'épouvantement t'a montré ton propre spectre. Dissipe les injurieux soupçons, si tu ne veux pas que je t'accuse à mon tour et que je me porte contre toi une récrimination qui serait certainement approuvée par le jugement du serpentaire reptilivore. Quelles monstrueuses aberrations de l'imagination t'empêchent de me reconnaître! Tu ne te rappelles donc pas les sévices importants que je t'ai rendus par la gratification d'une existence? Je te fis émerger du chaos et de ton côté, le vœu à jamais inoubliable de ne pas déserter mon drapeau afin de me rester fidèle jusqu'à la mort. Quand tu étais enfant, oh, ton intelligence était alors dans sa plus belle phase. Le premier, tu grimpais sur la colline avec la vitesse de lézard pour saluer par un geste de la petite main les multicolores rayons de l'aurore naissante. Les notes de ta voix jaillissaient de son larynx sonore comme des perles diamantines et résolvaient leur collective personnalité dans l'agrégation vibrante d'un long hymne d'adoration. Maintenant, tu rejettes à tes pieds, comme un haillon souillé de boue, la longanimité dont j'ai fait trop longtemps preuve. La reconnaissance a vu ses racines se dessécher comme le lit d'une mare, mais à sa place, l'ambition a cru dans des proportions qui me seraient pénibles de qualifier. Quel est-il, celui qui m'écoutera, pour avoir une telle confiance dans l'abus de sa propre faiblesse? Et qui es-tu toi-même, substance audacieuse? Non, non, je ne me trompe pas. Et malgré les métamorphoses multiples auxquelles tu as recours, toujours la tête de serpent reluira devant mes yeux comme un phare d'éternelle injustice et de cruelle damnation. Il a voulu prendre les rênes du commandement, mais il ne sait pas régner. Il a voulu devenir un objet d'horreur pour tous les êtres de la création, et il a réussi. Il a voulu prouver que lui seul est le monarque de l'univers, et c'est en cela qu'il s'est trompé. Ô misérable, as-tu attendu jusqu'à cette heure pour entendre les murmures et les complots qui s'élèvent simultanément de la surface des sphères, viennent raser d'une aile farouche les rebords papillacés de ton destructible tympan? Il n'est pas loin le jour où mon bras te renversera dans la poussière, empoisonné par la respiration, et arrachant de tes entrailles une nuisible vie, et laissera sur le chemin ton cadavre, criblé de contorsions, pour apprendre aux voyageurs concernés que cette chair palpitante qui frappe sa vue d'étonnement et cloue dans son palais sa langue muette ne doit plus être comparée, si l'on garde son sang-froid, qu'au tronc pourri d'un chêne qui tomba de vétusté. Quelle pensée de pitié me retient devant ta présence? Toi-même, recule plutôt devant moi, te dis-je, et va avec ton incommensurable honte dans le sang d'un enfant qui vient de naître. Voilà quelles sont tes habitudes. Elles sont dignes de toi, allez, va, marche toujours devant toi. Je te condamne à devenir errant. Je te condamne à rester seul et sans famille. Chemine constamment afin que tes jambes te refusent leur soutien. Traverse les sables des déserts jusqu'à ce que la fin du monde engloutisse les étoiles dans le néant. Et lorsque tu passeras près de la tanière du tigre, il s'empressera de fuir pour ne pas regarder comme dans un miroir son caractère exhaussé sur le socle de la perversité idéale. Et quand la fatigue impérieuse t'ordonnera d'arrêter ta marche devant les dalles de mon palais, recouvertes de ronces et de chardons, fais attention à tes sandales en lambeaux et franchis sur la pointe des pieds l'élégance des vestibules. Bon, ce n'est pas une recommandation inutile. Tu pourrais éveiller ma jeune épouse et mon fils en bas âge, couchés dans les caveaux de plomb qui longent les fondements de l'antique château. Si tu ne prenais les précautions d'avance, ils pourraient te faire pâlir par leurs hurlements souterrains. Quand ton impénétrable volonté leur ôta l'existence, ils n'ignoraient pas que ta puissance est redoutable, et n'avait aucun doute à cet égard. Mais ils ne s'attendaient point, et leurs adieux suprêmes me confirmèrent leur croyance, que ta providence se serait montrée à ce point impitoyable. Quoi qu'il en soit, traverse rapidement ces salles abandonnées et silencieuses, aux lamberies d'émeraude, mais aux armoiries fanées où reposent les glorieuses statues de mes ancêtres. Ces corps de marbre sont irrités contre toi. Évite leur regard vitreux. C'est un conseil que te donne la langue de leur unique et dernier descendant. Regarde comme leur bras est levé dans l'attitude de la défense provocatrice, la tête fièrement renversée en arrière. Sûrement ils ont deviné le mal que tu m'as fait. Et si tu passes à porter les piédestaux glacés qui soutiennent ces blocs sculptés, la vengeance t'y attend. Oh, si ta défense a besoin d'objecter quelque chose, parle. Il est trop tard pour pleurer maintenant. Il fallait pleurer dans les moments plus convenables, quand l'occasion était propice. Si tes yeux sont enfin dessillés, juge toi-même quelles ont été les conséquences de ta conduite. Adieu, le vent vert respiré, la brise des falaises. Car mes poumons, à moitié étouffés, demandent à grands cris un spectacle plus tranquille et plus vertueux que le tien. Ô pédérastes incompréhensibles, ce n'est pas moi qui lancerai des injures à votre grande dégradation. Ce n'est pas moi qui viendrai jeter le mépris sur votre anus infondibuliforme. Il suffit que les maladies honteuses et presque incurables qui vous assiègent portent avec elles leur immanquable châtiment. Législateurs d'institutions stupides, inventeurs d'une morale étroite, éloignez-vous de moi, car je suis une âme impartiale. Et vous, jeunes adolescents, ou plutôt jeunes filles, expliquez-moi comment et pourquoi. Mais tenez-vous à une convenance distance, car moi non plus, je ne sais pas résister à mes passions. La vengeance a germé dans vos cœurs, pour avoir attaché au flanc de l'humanité une pareille couronne de blessures. Vous la faites rougir de ses fils par votre conduite, que moi je vénère. Votre prostitution, s'offrant aux premiers venus, exerce la logique des penseurs les plus profonds, tandis que votre insensibilité exagérée comble la mesure de la stupéfaction de la femme elle-même. Êtes-vous d'une nature moins ou plus terrestre que celle de vos semblables? Possédez-vous un sixième sens qui nous manque? Ne mentez pas et dites ce que vous pensez. Ce n'est pas une interrogation que je vous pose, car depuis que je fréquente en observateur la sublimité de vos intelligences grandioses, je sais à quoi m'en tenir. Soyez béni par ma main gauche, soyez sanctifié par ma main droite, ange protégé par mon amour universel. Mais je baise votre visage, je baise votre poitrine, je baise avec mes lèvres suaves les diverses parties de votre corps, harmonieux et parfumé. Et que ne m'aviez dit tout de suite ce que vous étiez, cristallisation d'une beauté morale supérieure? Il a fallu que je devinasse par moi-même les innombrables trésors de tendresse et de chasteté que recelaient les battements de votre cœur oppressé. Poitrine ornée de guirlandes de roses et de vétiver, il a fallu que j'entrouvrisse vos jambes pour vous connaître et que ma bouche suspendît aux insignes de votre pudeur. Mais, chose importante à représenter, n'oubliez pas chaque jour de laver la peau de vos parties avec de l'eau chaude et, sinon, des chancres vénériens pousseraient infailliblement sur les commissures fendues de mes lèvres inassouvies. Oh, si au lieu d'être un enfer, l'univers n'avait été qu'un céleste anus immense. Regardez le geste que je fais du côté de mon bras ventre. Oui, j'aurais enfoncé ma verge à travers son sphincter sanglant, fracassant par mes mouvements impétueux les propres parois de son bassin. Le malheur n'aurait pas alors soufflé sur mes yeux aveuglés des dures entières de sable mouvant. J'aurais découvert l'endroit souterrain où gît la vérité endormie, et les fleuves de mon sperme visqueux auraient trouvé de la sorte un océan où se précipiter. Mais pourquoi me surprends-je à regretter un état de choses imaginaires et qui ne recevra jamais le cachet de son accomplissement ultérieur? Ne nous donnons pas la peine de construire de fugitives hypothèses. En attendant, que celui qui brûle de l'ardeur de partager mon lit vienne me trouver. Mais je mets une condition rigoureuse à mon hospitalité. Il faut qu'il n'ait pas plus de 15 ans. Qui ne croit pas de son côté que j'en ai 30, qu'est-ce que cela y fait? L'âge ne diminue pas l'intensité des sentiments, loin de là. Et quoique mes cheveux soient devenus blancs comme la neige, ce n'est pas à cause de la vieillesse, c'est au contraire pour le motif que vous savez. Mais moi, je n'aime pas les femmes. Ni même les hermaphrodites. Il me faut des êtres qui me ressemblent, sur le front desquels la noblesse humaine soit marquée en caractère plus tranché et ineffaçable. Êtes-vous certain que celle qui porte de longs cheveux soit de la même nature que la mienne? Je ne le crois pas, et je ne déserterai pas mon opinion. Une salive saumâtre coule de ma bouche, je ne sais pas pourquoi. Qui veut me la sucer afin que j'en sois débarrassé? Elle monte toujours. Ah, je sais ce que c'est. J'ai remarqué que lorsque je bois à la gorge le sang de ceux qui se couchent à côté de moi, c'est à tort que l'on me suppose vampire, puisqu'on appelle ainsi des morts qui sortent de leur tombeau. Or moi, je suis un vivant. J'en rejette le lendemain une partie par la bouche. Voilà l'explication de la salive infecte. Que voulez-vous que j'y fasse? Si les organes affaiblis par le vice se refusent à l'accomplissement des fonctions de la nutrition. Mais ne révéler mes confidences à personne. Ce n'est pas pour moi que je vous dis cela. C'est pour vous-même et les autres, afin que le prestige du secret retienne dans les limites du devoir et de la vertu ce qui, aimanté par l'électricité de l'inconnu, serait tenté de m'imiter. Ayez la bonté de regarder ma bouche. Oh, pour le moment, je n'ai pas le temps d'employer une formule plus longue de politesse. Elle vous frappe au premier abord par l'apparence de sa structure, sans mettre le serpent dans vos comparaisons. C'est que j'en contracte le tissu jusqu'à la dernière réduction, afin de faire croire que je possède un caractère froid. Et vous n'ignorez pas qu'il est diamétralement opposé. Que ne puis-je regarder à travers ces pages séraphiques le visage de celui qui me lit? S'il n'a pas dépassé la puberté, qu'il s'approche. Serre-moi contre toi et ne crains pas de me faire du mal. Rétrécissons progressivement les liens de nos muscles. Davantage, je sens qu'il est inutile d'insister. L'opacité remarquable à plus d'un titre de cette feuille de papier est un empêchement des plus considérables à l'opération de notre complète jonction. Moi, j'ai toujours éprouvé un caprice infâme pour la pâle jeunesse des collèges et des enfants étiolés des manufactures. Mes paroles ne sont pas les réminiscences d'un rêve, mais j'aurais trop de souvenirs à débrouiller si l'obligation m'était imposée de faire passer devant vos yeux les événements qui pourraient affermir de leur témoignage la véracité de ma douloureuse affirmation. La justice humaine ne m'a pas encore surpris en flagrant délit, malgré l'incontestable habileté de ses agents. J'ai même assassiné, il n'y a pas longtemps, un pédéraste qui ne se prêtait pas suffisamment à ma passion. J'ai jeté son cadavre dans un puits abandonné et on n'a pas de preuves décisives contre moi. Mais pourquoi frémissez-vous de peur, adolescent qui me lisez? Croyez-vous que je veuille en faire autant envers vous? Vous vous montrez souverainement injuste. Mais vous avez raison. Méfiez-vous de moi, surtout si vous êtes beau. Mes parties offrent éternellement le spectacle lugubre de la lurgescence. Nul ne peut soutenir, et combien n'en sont-ils pas approchés, qu'il les a vus à l'état de tranquillité normale, pas même le décrotteur qui lui porta un coup de couteau dans un moment de délire, l'ingrat. Non, je change de vêtements deux fois par semaine, la propreté n'étant pas le principal motif de ma détermination. Si je n'agissais pas ainsi, Les membres de l'humanité disparaîtraient au bout de quelques jours dans des combats prolongés. En effet, dans quelques contrées que je me trouve, ils me harcèlent continuellement de leur présence et viennent lécher la surface de mes pieds. Mais quelle puissance possède donc-t-elle mes gouttes séminales pour attirer vers elles tout ce qui respire par des nerfs olfactifs? Ils viennent des bords des Amazones, ils traversent les vallées qu'arrosent le Gange, ils abandonnent le lichen polaire pour accomplir de longs voyages à ma recherche et demander aux cités immobiles si elles n'ont pas vu passer un instant le long de leurs remparts celui dont le sperme sacré embaume les montagnes, les lacs, les bruyères, les forêts, les promontoires et la vastitude des mers. Le désespoir de ne pas pouvoir me rencontrer. Oh, je me cache secrètement dans les endroits les plus inaccessibles afin d'alimenter leur ardeur. Les porte aux actes les plus regrettables. Ils se mettent 300 000 de chaque côté et les mugissements des canons servent de prélude à la bataille. Toutes les ailes s'ébranlent à la fois comme un seul guerrier. Les carrés se forment et tombent aussitôt pour ne plus se relever. Les chevaux effarés s'enfuient dans toutes les directions. Les boulets labourent le sol comme des météores implacables. Le théâtre du combat n'est plus qu'un vaste champ de carnage quand la nuit révèle sa présence et que la lune silencieuse apparaît entre les déchirures d'un nuage. Me montrant du doigt, un espace de plusieurs lieues recouvert de cadavres, le croissant vaporeux de cet astre m'ordonne de prendre un instant, comme le sujet de méditative réflexion, les conséquences funestes qu'entraîne après lui l'inexplicable talisman enchanteur que la Providence m'accorda. Malheureusement, que de siècles ne faudra-t-il pas encore avant que la race humaine périsse entièrement par mon piège perfide. C'est ainsi qu'un esprit habile et qui ne se vante pas emploie pour atteindre à ses fins les moyens mêmes qui paraîtraient d'abord y porter un invincible obstacle. Toujours mon intelligence s'élève vers cette imposante question. Et vous êtes témoin vous-même qu'il ne m'est pas possible de rester dans le sujet modeste qu'au commencement j'avais le dessein de traiter. Un dernier mot. C'était une nuit d'hiver, et pendant que la bise sifflait dans les sapins, le Créateur ouvrit sa porte au milieu des ténèbres et fit entrer un pédéraste.